grand dialogue
sigi ka foba
edowani wa maqaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne biro
halud maundi
chenne biri sigi ka foba
le grand dialogue
le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. En ce jeudi 3 juillet 2014, le Grand Dialogue a décidé de vous parler des conséquences du manque d'engouement des étudiants à choisir les filières scientifiques à l'école. Les trois thématiques de cette émission, le manque de diplômés dans les filières scientifiques au Mali, le manque d'organisation dans le système de gestion des étudiants formés dans les filières scientifiques et enfin la fuite des cerveaux. Les invités, Mohamed Kanté, président INRD Mali, Rebecca Brosseau, bénévole canadienne à INRD Mali, à INRD du Canada, professeur Ibrahim Camara, universitaire, et Ilo Diallo, directeur adjoint du Centre des concours et examens. Et enfin, Mohamed Ali Niang, qui va nous rejoindre tout à l'heure, jeune entrepreneur malien rentré au Bercail il y a quelques temps. Je suis Famoussa Sidibé, Nuhum Diara est à la technique. Studio Tamani. Aujourd'hui, peut-on combler le manque d'étudiants maliens dans les filières scientifiques quand on sait qu'une des conséquences est aujourd'hui le manque, par exemple, de médecins spécialisés dans certains domaines, Ilo Diallo?
Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je crois que, pour répondre à votre question, là, c'est une question de politique nationale. Je crois que finalement au Mali, les gens sont orientés dans les filières et les choix sont souvent imposés aux jeunes. Donc s'il y a imposition de choix, donc c'est dans ce même cadre-là qu'on peut régler certaines options.
Alors, je vous reprends la même question, Ibrahim Camara, vous êtes universitaire. Alors comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour combler ce manque?
Bonsoir et merci encore de m'avoir invité sur votre plateau. Moi, je vais abonder dans les mêmes sens que le directeur. C'est une question de vision de politique nationale. Mais sauf que moi, je vais argumenter par le fait que nous devons plus mettre l'accent sur la formation des formateurs. Surtout si on met l'accent sur le fait qu'il y a moins de médecins spécialisés, c'est qu'on doit surtout mettre en place des professeurs, des grands professeurs d'université de médecine pour pouvoir encore encadrer les jeunes médecins vers la spécialisation, chose qui n'est pas du tout facile au Mali.
Alors, Rebecca, vous faites partie d'une association canadienne, canado-malienne aujourd'hui.
Canado-américaine-malienne.
Ah, voilà. Ok, voilà. Mm-hmm. Donc, dites-nous, présentez-nous un peu cette association.
Bon, donc, l'association a été créée par un Malien qui a eu la chance de faire son université aux États-Unis. Et puis, il s'est dit qu'il avait vraiment une manque de bonne éducation, mais vraiment d'éducation spécialisée pour le STEM, pour les enfants. Donc, on commence cette année avec notre projet pilote. C'est un projet pour des élèves de 4e et 5e année, des étudiants de l'École du Progrès. Et on fait un camp basé sur le STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, pour leur inspirer à s'intéresser plus à ces matières et puis savoir que c'est vraiment des choses qu'ils vont utiliser dans la vie de tous les jours et qui pourront vraiment beaucoup servir notre nation du Mali.
Alors, Ilo Diallo, est-ce qu'il y a assez de marge de manœuvre aujourd'hui pour les apprenants pour se faire guider ou bien de choisir après les séries d'orientation voulues par le ministère de l'Éducation?
Bon, il y a des possibilités, mais je crois que déjà la formation à la base fait que les gens ont même peur des matières scientifiques. Et déjà, on parle de niveau qui a baissé, et à ce titre-là, les gens vont vers les trucs plus faciles. Et là, les sciences, on estime que tout le monde se dit que les sciences sont beaucoup plus difficiles à gérer. Donc, chacun va dans les séries où il y a beaucoup plus de facilité. Je crois que c'est ça.
Alors, que faire aujourd'hui pour démystifier cela, professeur Ibrahim Camara?
Alors, je pense que nous devons beaucoup plus mettre l'accent déjà sur la formation de base, c'est-à-dire que donner l'engouement dès les bas âges aux matières scientifiques, les mathématiques, les techniques aujourd'hui. Et Et quand on voit aujourd'hui qu'on, quelques écoles privées font l'effort d'initier la technologie dans la formation, moi je pense que l'État doit aller encore beaucoup plus en essayant encore toujours je dis, d'encadrer et d'aider les écoles nationales, et les écoles publiques et privées à insérer dans leur formation ou à tenir en compte quand même le fait que nous devons avoir beaucoup plus de technologie aujourd'hui, beaucoup plus de scientifiques. Et c'est là le problème de l'école malienne aujourd'hui. Et malheureusement, cette tendance ne s'avère pas prouvée aujourd'hui.
Alors, Rebecca, quelle approche est-ce que vous adoptez, vous, à votre niveau, au niveau de INRD?
À votre niveau, puisque c'est des jeunes tout petits de 9 à 11 ans. En fait, on a même un étudiant de 6 ans qui est très intelligent, très avancé. Mais on essaie d'ajouter des activités très interactives. On fait aussi des visites. Par exemple, on est allé à l'ORTM pour voir comment fonctionne la télévision ici. Hier, on est même allé voir un bassin de teinture, comprendre que la chimie fait partie de la vie de tous les jours. On fait des activités, même en chimie par exemple, on a nettoyé de l'argent avec du vinaigre. Donc ça fait rêver un peu les enfants, ça les fait comprendre comment la science peut être interactive, peut être intéressante, peut être très animée.
Voilà. Alors au niveau rural aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les jeunes ruraux à aller vers les filières scientifiques?
Ça, c'est une très bonne question. Nous, on commence cette année avec notre projet pilote, mais à la base, on aimerait vraiment répandre ce genre de projet dans des écoles partout au Mali, même partout en Afrique de l'Ouest. Donc, on prévoit faire des projets dans des endroits ruraux ainsi que dans la ville.
Okay. Alors, Ilo Diallo, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, selon vous, pour faciliter l'apprentissage ou bien faciliter, donner l'engouement aujourd'hui des séries scientifiques aux apprenants?
Donc, je crois que je vais emboîter le pas à Rebecca, qui a dit qu'il faut déjà susciter ça. Parce que là, c'est en bas âge qu'il faut susciter l'amour des sciences. Et leur projet, je crois que est le bienvenu pour ça. Si l'enfant déjà à la curiosité de vouloir apprendre certaines choses, je crois qu'il va se mettre dans cette filière et puis progresser là-dedans. Mais si déjà on lui fait peur, déjà les mathématiques c'est difficile, les sciences naturelles c'est difficile, donc là c'est l'engouement ne n'est pas dans l'esprit de ce petit qui au fur et à mesure va aller vers les filières les plus faciles. Et généralement ce n'est pas en faisant uniquement de la littérature, du théâtre ou autre qu'on peut développer un pays. Ce n'est pas pour dire que la littérature, le théâtre n'est pas intéressant, mais c'est généralement à partir des sciences expérimentales qu'on développe un pays, qu'on atteint un certain niveau de développement.
Alors, Ilo Diallo, nous allons rester avec vous. Vous êtes directeur national adjoint du Centre des concours et examens. Mmh. Aujourd'hui, la plupart des bourses qui parviennent au Mali, c'est des bourses scientifiques. Mmh. Comment est-ce que vous pouvez nous schématiser l'engouement qu'il y a autour de ces bourses?
Bon, on ne peut pas dire que c'est uniquement des bourses scientifiques, parce que généralement, ces bourses-là arrivent au niveau de la Direction nationale de l'enseignement supérieur. Moi, je suis de l'éducation nationale. Et donc, nous ne sommes pas du même département. Nous ne savons pas comment ça se gère là-bas. Mais je sais que quand ces bourses arrivent, c'est généralement les plus méritants qui bénéficient de la bourse. Parce que moi, je suis du Centre national des examens et concours. Nous avons l'habitude d'envoyer au niveau de cette direction et les résultats de ceux qui ont eu les mentions. Mentions très bien, mentions bien. Et au pif, souvent, les mentions assez bien. Mais c'est pas. Généralement, les mentions assez bien ont moins de chances vis-à-vis des mentions bien et très bien. Et bien on envoie les notes, ils font les classements en fonction des matières principales. Donc, si c'est les littératures, donc c'est les matières littéraires qui ont le pas. Si c'est les séries scientifiques, c'est les matières scientifiques, physique, chimie, mathématiques qui ont le pas. Et c'est comme ça que c'est géré.
Alors, nous allons rester avec vous toujours. Vous êtes un peu, votre organe est considéré comme le tamis aujourd'hui de l'enseignement. Les notes vous parviennent, c'est vous qui dispatchez un peu tous ceux qui réussissent dans les différents examens au bas niveau. Est-ce que vous constatez aujourd'hui une amélioration dans le domaine?
Une amélioration dans quel domaine?
Une amélioration, par exemple, dans les notes.
Dans les notes. Oui, bon, on peut estimer que ça va de mieux en mieux. Parce que Et depuis 2010, on a eu à prendre deux arrêtés qui changent la gestion du DF, du diplôme d'études fondamentales, et qui changent la gestion du baccalauréat. Donc on a estimé que pendant longtemps, et avec la création des écoles privées, et ces écoles privées ont donné de très bonnes notes, de moins de classes, et généralement ça aidait beaucoup les enfants à passer aux examens. Donc on a minimisé la moindre des classes et les enfants ont eu à souffrir de ça pendant au moins 2 ans, 2010-2011, mais ils ont commencé à s'habituer à se passer de leur moindre des classes et à se battre pendant les examens pratiques même. Et depuis 2012, je crois que ça commence à aller. Cette année, l'année dernière, les résultats étaient assez bons.
Okay. Alors, du beau monde dans ce studio, nous accueillons Mohamed Ali Niang. Mohamed Ali, vous êtes, si je ne m'abuse, agronome.
Alors, je suis entrepreneur, socio-entrepreneur de formation.
Aujourd'hui, vous êtes dans le domaine agricole.
Mais la réalité m'a poussé à adopter l'agriculture et l'agro-industrie.
Alors, pourquoi ?
Donc, quand nous avions fait nos études, on a été très inspirés par le travail que mon père faisait, qui est un agroéconomiste. Mais on a tous refusé d'étudier l'agronomie.
Pourquoi ?
C'était pas assez cool. On se disait que c'est un travail physique, c'est dans un champ, il fait chaud. Et on a tous fait des études parmi ces enfants d'intellectuels, comme on peut dire. Mais une fois arrivé à l'université, aux États-Unis plus précisément, si on veut rentrer travailler au Mali, si on veut avoir un impact sur la société, pouvoir se nourrir, mais en même temps pouvoir vraiment contribuer de manière significative, il fallait s'investir dans l'agriculture. Et on s'est rendu compte que l'agriculture, ça demande beaucoup de cerveau, beaucoup d'intelligence, beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation. Donc, n'importe qui, avec n'importe quelle formation, peut contribuer à cette chaîne de valeur.
Alors, on tente un peu de démystifier la chose, mais je pense que vous contribuez à envenimer un peu la situation. Mais comment est-ce que vous voyez cet engouement que votre père a aujourd'hui pour la terre ? Est-ce que vous pensez que ce qu'il a fait, c'était diabolique ?
Non, on pourrait dire qu'aujourd'hui, nous, on a un engouement qui est plus fort que celui de mon père. Lui, il a attendu la retraite pour se lancer proprement dans la terre, alors que nous, on a attendu la fin de nos diplômes pour se lancer proprement dans la terre, donc 24-25 ans. Donc, c'est juste qu'aujourd'hui, si on veut sortir des centaines de milliers de Maliens de la pauvreté, c'est-à-dire qu'ils soient les acteurs qui créent de la richesse, qui retiennent de la richesse, qui sont dans une classe moyenne, si on veut vraiment contribuer à tacler un des plus gros problèmes que nous avons, qui est la malnutrition, si on veut être des bons citoyens tout court, il faut qu'on contribue à nourrir nos frères et à nourrir notre communauté.
Okay. Alors, Ibrahim Camara, est-ce que vous pensez que finalement les structures comme l'IPR de Katibougou, toutes ces structures-là qui entrent dans la production agricole ne sont pas assez exploitées par les apprenants maliens?
Oui, tout à fait. Je dis que non seulement les structures ne sont pas assez exploitées, mais je pense qu'aussi même les programmes ne sont pas orientés vers ça. On constate vraiment une inadéquation entre la réalité socio-économique du Mali et nos programmes universitaires. Moi, Dieu merci, j'ai vu des cours à l'université, mais j'enseigne aussi une matière technique. Mais il faudrait dire que aujourd'hui, on a plus besoin d'orienter les étudiants vers encore plus de technicité, aller vers les diplômes beaucoup plus courts, vers les BTS, et encore aller beaucoup plus vers la terre. Et c'est-à-dire qu'en ce moment, c'est aux hommes politiques d'essayer d'adhérer et de pousser les jeunes à aller vers la terre. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait cette adéquation entre la politique nationale universitaire et le programme et la réalité sociale.
Alors, Rebecca, vous allez laisser la place tout à l'heure à votre collaborateur, Mohamed Kanté. Un dernier mot avant de partir.
Oui, j'aimerais souligner le fait que notre camp, notre colonie de vacances, c'est pas juste pour éduquer sur le STEM. C'est aussi pour vraiment approfondir le fait que ces élèves, surtout des élèves de l'École du Progrès, ils ont une responsabilité sociale à contribuer à leur pays. On a parlé de la vie des cerveaux, on a parlé des jeunes maliens qui sont éduqués en Europe ou en Amérique du Nord et qui reviennent et qui veulent contribuer à leur pays, au développement de leur pays. Donc dès un très bas âge, dès 9 à 11 ans, on aimerait faire penser ces jeunes que c'est à eux de contribuer au développement du Mali, à l'avenir du Mali.
Et ça passe par les filières scientifiques.
Voilà.
Merci beaucoup. Une courte pause et nous reprenons le cours de ce débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle. L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tchessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Djamana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz, Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz, Issaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Vous êtes à notre écoute, merci de le rester. Nous sommes à la deuxième partie de ce débat, une deuxième partie consacrée au manque d'organisation dans le système de gestion des étudiants formés dans les filières scientifiques au Mali. Nos invités, Mohamed Kanté, président de INERD, INERD qui est une association qui milite pour la promotion des filières scientifiques dans les écoles. Et vous avez entendu Rebecca Brosso tout à l'heure, aussi bénévole canadienne à INERD. Professeur Ibrahim Camara, universitaire également, est avec nous. Et Ilo Diallo, directeur national adjoint du Centre des concours et examens du ministère de l'Éducation nationale. Et Mohamed Alignang, jeune entrepreneur rentré au Bercail. Alors, cette deuxième partie, le manque d'organisation dans le système de gestion des étudiants formés. Le peu d'étudiants formés dans les différentes filières scientifiques ne veulent exercer que dans les centres urbains et non en campagne. Ceci est-il concevable, Ilo Diallo?
Pour la formation que les jeunes ont, je crois que la campagne, généralement quand les gens prennent l'habitude de vivre en ville, et c'est très difficile après de retourner à la campagne. Même ceux qui sont issus des campagnes, j'ai vu le cas quand ils viennent à Bamako pour étudier, pour le lycée et les écoles supérieures, ils ont des difficultés à se réintégrer dans leur milieu d'origine qui est la campagne. Donc, mais il faut qu'on retourne à la terre, et on ne peut pas retourner à la terre en étant en ville. Donc je crois que c'est une obligation que les gens se replongent dans ce milieu.
Alors, pourquoi avoir choisi la terre comme destination aujourd'hui, Mohamed Ali?
C'est-à-dire, la terre pour nous, c'est avant tout une source d'indépendance. Donc, c'est un endroit où tu es le chef, où tu es le co-chef avec ceux qui décident. Et aussi, on a décidé que la forme d'agriculture que nous, on veut pratiquer, la forme d'agro-industrie que nous voulons pratiquer, c'est comme mon petit frère moi le dit, on veut que le tabac soit haram sur notre champ. On veut que l'agriculture soit propre, moderne, sexy, cool. Quelque chose que tu peux faire, tu es fier de toi, tu travailles de 7h30 du matin, quand tu descends à 17h, tu te laves, tu t'habilles, tu vas avec tes panneaux solaires, tu allumes ta télévision, tu regardes la télé. Donc on n'est plus obligé maintenant de dire aux gens, soit tu te sacrifies, tu vis en brousse, sans aucune condition, mais tu le fais parce que tu nourris les gens. Il faut que ce soit l'inverse. Les gens qui nourrissent le pays font le boulot, un des boulots les plus importants pour la nation. Le ventre vide, on ne peut rien faire. Les banquiers ne pourront rien faire. Les ministres ne pourront rien faire. Les soldats ne pourront rien faire. Donc ces gens aussi ont droit à un cadre de vie agréable, plaisant. Et on doit tout faire maintenant quand on monte des projets en milieu rural ou en milieu rural, que les gens soient à l'aise. Et que si tu es paysan de 7h du matin à 17h. Après, tu vis aussi bien que n'importe quelle personne qui a fait des études ou qui travaille dans... qui a un col blanc, si on peut dire.
Alors, je suis sûr que le professeur Abdoulaye Niang suit avec intérêt ce débat et qu'il est à l'écoute. Alors, Mohamed Kanté, vous êtes président de INERD Mali. Vous faites la promotion des filières scientifiques dans le monde scolaire. Alors, Rebecca était là tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à ce milieu rural qui fait peur à tout le monde?
Salut. Comme tu l'as si bien dit, c'est Mohamed Kanté. Au milieu rural, vous parlez de l'exode rural ou bien...
Non, de la promotion des filières scientifiques. Nous sommes toujours dans le même domaine.
Oh, ok, d'accord.
Est-ce qu'il est facile d'apprendre dans le milieu rural?
Moi, je crois que si. Mais attends, moi, je pense qu'ici, on met l'accent sur quelque chose qui n'est pas prioritaire. Bon, du moins, dans le milieu rural. Déjà, il faut que les enfants aient à manger et déjà, il faut que les enfants ils aient à étudier. Par exemple, je veux bien dire, il y a une association que j'ai eu à rencontrer au Mali ici qui donne des cahiers aux élèves innocents. Ils ne les connaissent même pas, ils donnent des cahiers juste pour que les parents n'aient pas d'excuses d'envoyer des élèves à l'école. J'utilise cet exemple parce que au milieu rural, peut-être qu'ils n'ont même pas... Parce que les parents se disent, OK, soit tu es premier, soit je ne veux pas... Tu vas travailler à la terre, right? Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais ils ont des excuses. Moi, nous, on met l'accent, je ne parle pas de Hainaut, je parle du Mali en général. On a tendance à mettre l'accent, oh, OK, on a construit 10 écoles dans les sous-régions et bon, voilà, c'est tout. Ça, c'est pas, je ne pense pas que c'est...
C'est pas suffisant.
Non, ce n'est pas suffisant.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Moi, je pense que déjà, habiliter les jeunes, right? Habilité, quand je dis habilité, il ne s'agit pas nécessairement de leur donner à manger, mais de leur apprendre comment pêcher. Right? On utilise le proverbe, je le connais bien, chinois, ils disent que au lieu d'apprendre un homme à manger, au lieu de donner un homme à manger, il faut lui apprendre à pêcher. Moi, je préfère cette approche pour qu'ils, non seulement... Ils connaissent comment, ils apprennent comment le faire et aussi, éventuellement, ils ont une infrastructure qui les encourage à aller à l'école. Ouais. Moi, je crois que c'est la solution la plus.
Idoine.
D'accord. Bon. Alors, Ibrahim Camara, décidément, Ilo Diallo m'est resté dans la bouche. Ibrahim Camara, qu'est-ce que vous avez comme vision aujourd'hui par rapport à ce manque d'engouement des diplômés à aller exercer dans les régions?
Moi, je vais encore abonder dans le même sens que M. Niang. Il faut changer la perception de l'agriculteur qu'on a aujourd'hui. Parce que pour nous tous, dans notre imaginaire inconscient, on se dit quand un agriculteur, c'est qu'on a échoué quelque part dans la vie. Or, cela n'est pas vrai, parce qu'un agriculteur, l'agriculture, c'est un métier noble. Et quand on dit métier noble, c'est quelqu'un qui peut faire vivre tout le monde et qui essaye de prendre en charge aussi la nourriture de ses voisins. En tout cas, c'est la perception de l'agriculture qu'on a dans un premier temps, dans un milieu traditionnel. Et je suis aujourd'hui content de voir qu'il y en a qui sont en train de mettre l'accent sur l'agriculture massive. Et Dieu seul sait que notre salut ne pourra venir que par l'agriculture. Quand on voit que le fils du Niger est encore inexploité, ça, c'est de bon augure de s'y lancer. Et je demande aussi à tous les intellectuels, de ceux qui ont moins de place, parce que quand je dis qu'il y a moins, il n'y a pas il y a la difficulté, c'est l'inadéquation des programmes avec la réalité. Si on a le diplôme, c'est de réfléchir, aller à l'école, nous permet de réfléchir. Mais quand on a un diplôme de droit, ça ne veut pas dire qu'on devient obligatoirement magistrat, avocat ou directeur comme M. Diallo ou un professeur comme moi. Mais non, on peut toujours aller avec sa maîtrise de droit ou sa maîtrise de gestion, cultiver la terre et encore mettre en exercice son intelligence à la terre. Et cela va de soi quoi, pour le salut du Mali.
Alors, professeur Ilo Diallo, vous êtes directeur national adjoint du Centre des concours et examens du Mali. Pensez-vous qu'il faille adopter aujourd'hui une autre méthode pour inciter les enfants à choisir les filières scientifiques?
Bon, pour inciter les enfants à choisir les filières scientifiques, je crois que la méthode qui est utilisée n'est pas mauvaise. Parce que déjà, on fait beaucoup dans les petites classes pour que les enfants travaillent de la main. Je crois que ça, c'est le béaba de la technologie. Bon, mais il y a aussi le fait que dans notre pays, à un moment, on a pensé à la ruralisation. Ça, c'est, si ça avait continué, je crois que beaucoup de jeunes Yang seraient aujourd'hui à la terre. Mais malheureusement, on a arrêté parce que nous avons souvent tendance à croire que le prédécesseur, tout ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Il faut faire table rase de tout et recommencer. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Peut-être qu'il faut un peu mettre un peu d'air dans les pneus, mais pas toujours réinventer la roue. Et que ce qui est en train de se faire n'est pas mauvais. Il faut essayer d'insuffler un peu plus de dynamisme là-dedans et puis ça va aller. Je crois que nous sommes un pays à vocation agropastorale. Tout le monde le dit, on le chante, on le baragouine même. Mais il faut qu'on mette les moyens à la disposition des jeunes qui veulent s'installer comme Nyang et les encourager, les inciter. Les autres. D'autres vont suivre s'ils voient qu'eux, ils ont réussi et qu'ils n'ont rien à envier à ceux qui sont dans les grands départements. À ce moment, les autres vont suivre ça. C'est une incitation aussi, et la motivation.
Alors, est-ce que à votre niveau, au niveau de la haute hiérarchie de l'éducation nationale, on a pris conscience de ce manque criard qu'il y a aujourd'hui à ce que les enfants puissent choisir les filières scientifiques? Les jeunes sont impliqués aujourd'hui. Est-ce que les adultes en ont conscience?
Oui, je crois qu'au niveau du département, on a conscience de cela. C'est pour cela qu'au moment des orientations, on essaie d'envoyer les enfants dans les filières scientifiques avec souvent un verrou pour dire que quand tu es orienté quelque part, il n'est pas question que tu puisses quitter. Mais après, c'est les parents qui interviennent. On sait au Mali la force de l'intervention. Et finalement, on dit même qu'il faut envoyer 60% pratiquement dans les filières scientifiques. Mais après, dès qu'on finit les orientations, après avoir fini les transferts et réorientations, on se retrouve à 30% d'élèves dans les filières scientifiques, alors qu'on les avait mis à 60%. Bon, il faut voir que c'est pratiquement peut-être que dans le subconscient des familles, c'est ça, là qu'il y a le problème. Sinon, les autorités au niveau central ont conscience du phénomène. Et ils sont en train de se battre pour corriger, mais il faut qu'on y ait aussi la résistance de l'administration centrale vis-à-vis des parents pour ne pas faire quitter leur enfant, pour les mettre soin. Il y a des enfants qui sont doués, qui peuvent faire les matières scientifiques, mais dès qu'on fait croire à l'enfant que non, c'est difficile, et il fait intervenir son père, sa maman, sa tante, pour qu'on le fasse quitter cette série pour le mettre ailleurs. Et souvent, ça réussit, il quitte les séries scientifiques. Voici un scientifique de perdu pour le pays, et c'est vraiment dommage.
Alors, juste à titre d'illustration, dans la sous-région, le Mali a un nombre d'anesthésistes limité comparativement au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, où l'on peut compter par exemple 80 médecins anesthésistes. Le Mali n'en compte que 9. Qu'est-ce que cela vous fait, Ibrahim Camara?
Bon, moi, c'est une suite logique. Si vous comparez le Mali à la Côte d'Ivoire au Sénégal, je pense que je vais un peu toucher à l'orgueil des Maliens, mais il faut reconnaître que ces deux pays ont pris un peu le pas, en tout cas en avance sur nous, concernant la formation, notamment de la médecine. Et je vous ai dit que surtout en matière de spécialisation, que nous, il nous manque beaucoup plus de moyens. Et comme je suis universitaire, j'ai encore plus la voix libre par rapport à M. Diallo, que nous sommes tous conscients qu'au niveau des hôpitaux, il y a un conflit entre les internes et les grands professeurs qui ont du mal à transférer les connaissances requises aux suppléants. Et donc, du coup, on comprend aisément que cela ne soit aussi peu nombreux au Mali par rapport au Sénégal et à la Côte d'Ivoire.
Mais est-ce que c'est un manque de moyens? Par exemple, à la faculté de médecine, nous avons 5250 étudiants de près de 15 pays africains boursiers dans la faculté de médecine.
Non, ce n'est pas un manque de moi, je vous le dis, c'est un manque de formateurs. Donc si vous savez la réalité de l'école de médecine, on a vraiment un manque criard de formateurs, et de toute façon dans toutes les universités supérieures. M. Diallo, il est un tout petit peu au parfum de cela, que moi j'en suis au courant, que dans les écoles supérieures, et il y en a qui sont là, qui enseignent des matières, simplement ils les enseignent parce qu'il n'y a personne d'autre pour les enseigner. Donc, et c'est le cas pour l'école de médecine. Et c'est dommage parce que c'est un tout petit peu le nerf de la guerre, l'école de médecine aujourd'hui. Et malheureusement, nous sommes en train de perdre aussi cette visibilité qu'on a de l'école de médecine, comme nous l'avons perdu celui de l'ESICA. À un moment donné.
Une courte pause et nous reprenons la suite de ce débat. La troisième partie est consacrée à la fuite des cerveaux. Studio Tamani.
Kata Kaifo Kidal. Aubeka Studio Tamani Lamet.
Studio Tamani, 24 radios dans tout le pays unissent leurs efforts et leurs informations pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Rondelle avec le soutien de l'Union européenne.
Studio Tamani, Akai sur la radio Nostalgie 94.5 MHz, radio Kouroukan de Kita 92.6 MHz et la radio rurale de Kai 89.10 MHz ou 102.2 MHz.
Studio Tamani à Koulikoro sur la radio Diamana 103.9 MHz et la radio Faso Kanou de Banamba 107.5 MHz.
Studio Tamani à Sikasso sur la radio Kéné de Sikasso 100.0 MHz, radio Mamelon 99.0 MHz et la radio Diamana de Kuchala 102.6 MHz.
Nous sommes à la troisième partie du Grand Dialogue, un débat axé aujourd'hui sur les conséquences du manque de diplômés dans les différentes filières scientifiques au Mali. Cette troisième partie sera consacrée à la fuite des cerveaux. Nos invités, Mohamed Kanté, président de l'ONG de l'association INERDE, association qui milite pour la promotion des filières scientifiques dans les écoles. Nous avons reçu également Rebecca Brosseau, bénévole canadienne, également membre de INERDE, professeur Ibrahim Camara, universitaire, Ilo Diallo, directeur national adjoint du Centre des concours et examens au ministère de l'Éducation nationale, et Mohamed Alignang, jeune entrepreneur diversé dans l'agronomie. Aujourd'hui, la fuite des cerveaux. Pourquoi êtes-vous revenu après vos études, Mohamed Kanté?
Moi, je suis...
Bien, vous avez toujours un pied là.
Fait. Oui, j'ai toujours un pied de l'autre côté. Parce que... Bon, cette année, j'ai décidé, ok, je m'en fous de l'argent, je vais prendre 2 mois congé sans paye. Je viens et je viens faire le travail avec INERDE. Et bien vrai, c'est une organisation à but social. Il y en a qui préfèrent que je dise à but non lucratif. Je crois, ça me donne de l'espoir, ok. Donc moi, il y a un proverbe qui dit, in order to predict the future, you have to take part of its creation. En d'autres mots,
traduction.
Right. Si pour pouvoir prédire le futur, il faut prendre part dans sa création. Ok. Moi, j'ai de l'espoir. En travaillant avec les enfants
à bas âge,
ça me donne vraiment de l'espoir. Ok. Donc moi, je dis que le Mali, je vois une révolution dans les technologies et industrialisation, si vous voulez. Industrialisation, si vous voulez. Et ça me donne de l'espoir pour revenir au Mali. Parce que ingénieur en électricité n'a pas tellement de place au Mali. Moi, la plupart de travail, de ma formation...
Vous avez fait quoi comme formation, à la base?
À la base, au Mali ou bien...
Au Mali,
j'ai fait SHT. C'est ça que je disais tantôt. Si j'étais au Mali, en tant que SHT, je n'allais même pas avoir une chance d'être dans l'ingénierie.
Okay. Donc, vous avez fait ingénierie après?
J'ai fait ingénierie aux États-Unis.
Et vous êtes maintenant?
Actuellement, je suis un test ingénieur. Dans une grande compagnie aux États-Unis. Et Dieu merci, Alhamdoulilah, moi, j'ai eu.
Et comment est-ce que vous avez fait pour passer ce mythe? Bon, pour briser cette barrière?
Bon, cette barrière, c'était même pas une barrière. Parce que déjà, moi, j'avais une bonne base, je dirais. D'après ce qu'on m'a dit, on me dit, OK, vraiment, moi, je t'encourage. Après mes cours d'anglais, ils m'ont dit, OK, ton niveau te permet de faire deux choses seulement. Electrical engineering et mechanical engineering. Donc, ces deux-là, comme je n'avais aucune idée c'était quoi, on me l'a dit, OK, electrical engineering, c'est quand tu veux te faire beaucoup d'argent avec tes mains propres. Et mechanical engineering, quand tu veux te faire beaucoup d'argent avec tes mains sales. C'est comme ça qu'on m'a fait la part. Et moi, comme j'aime faire avec mes mains propres, donc j'ai fait electrical engineering. C'était un accident, mais je suis vraiment heureux parce que j'ai eu à travailler sur des projets qui ont eu vraiment, vraiment de l'ampleur aux États-Unis et au Mali aussi. Surtout des projets dans la technologie. Donc, si moi j'étais resté au Mali et que, bon, comme le professeur disait tantôt, j'allais pas du tout avoir l'option, sinon même science, la chance de partir vers la science. Okay. Donc, c'est ça qu'on essaie de combattre, okay. Si vous voulez.
Alors, Mohamed Alignang, vous êtes entrepreneur aujourd'hui dans l'agriculture. Qu'est-ce que vous pensez de ces cerveaux-là qui préfèrent rester à l'étranger et ils ne veulent pas revenir au Mali?
Bon, je pense que c'est un phénomène qui est inversé. Hein. La fuite de cerveau, c'est dépassé.
avec la circulaire Guéant en France, avec les Royaume-Uni qui donnent plus de visas, les États-Unis qui te donnent un an pour trouver du travail, tu trouves pas, tu prends tes clics et tes claques, tu rentres chez toi. Donc on a beaucoup d'étudiants africains, extrêmement compétents, parce que ceux qui vont à l'étranger comprennent la valeur du travail dur, qui arrivent premiers de leur classe, majeurs de leur promotion. Il n'y a qu'une infime partie qui trouve du travail. Donc aujourd'hui, tu veux pas. Si tu ne veux pas être sous-qualifié, travailler dans la restauration ou dans les ventes, c'est-à-dire commerciales, tu seras obligé de revenir au Mali. Et là, je vois beaucoup de gens de ma promotion aujourd'hui, africains en général, qui rentrent au pays, qui ont des compétences techniques énormes, qui ont des stages, qui ont des CV lourds, mais qui n'ont pas pu trouver de travail. Et il y a un deuxième phénomène qui est en train d'arriver, c'est avoir des jeunes étrangers, c'est-à-dire des pays occidentaux. Le chômage est en train de les massacrer là-bas. Il n'y a vraiment pas de boulot en France aujourd'hui pour une certaine catégorie d'âge, qui sont prêts à venir dans un pays en voie de développement. Toucher une paye minime. Non, travailler même. Toucher une paye minime à condition d'avoir de la bonne nourriture, à pouvoir aller à des concerts, pouvoir profiter de la culture. Donc, le brain drain, comme on a vu, la fuite de cerveau qu'on a vu qui allait du sud vers le nord est en train de s'inverser totalement maintenant avec... pour des raisons de politique migratoire, des raisons de nationalisme qui est en train d'arriver dans ces pays, la crise économique qui les frappe aussi, le marasme économique, le chômage. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est ça que je dis à beaucoup de Maliens. Tu vas étudier à l'étranger, il faut y aller. Mais aie ton plan de retour parce que tu reviendras dans ton pays, que tu le veuilles ou pas.
Alors, il y a des jeunes aujourd'hui qui ne pensent qu'à ça, aller à l'étranger, étudier, trouver du boulot, se marier, tout à l'étranger. Qu'est-ce que vous leur dites ?
C'est beaucoup de gens qui ne comprennent pas la réalité de l'étranger.
Qu'est-ce qui se passe à l'étranger ?
L'étranger, c'est bien si tu as de l'argent. Tu peux tout acheter, tu peux tout avoir. Mais l'étranger, c'est très violent si tu n'as pas d'argent. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'entraide. Et surtout, si tu vois un pays comme les États-Unis où la performance, le succès est clé, si tu n'es pas beau, tu ne brilles pas, tu n'es pas considéré. En France, il y a un filet social, mais il y a une forte communauté nationale aussi, malienne ou sénégalaise. Donc si tu n'es pas en train de réussir, tu es parti, tu as fait 5 ans d'études et tu te retrouves à faire de la plonge dans un restaurant, c'est dur avec les réseaux sociaux aujourd'hui de mettre des photos de toi devant une belle voiture ou devant une boîte, mais on sait que tu fais la plonge. Donc c'est plus facile de revenir travailler pour une multinationale parce que quand on part, honnêtement, et là j'aimerais bien que le directeur il fasse des efforts, que vous fassiez. Quand nous quittons le Mali,
c'est un plaidoyer maintenant.
Quand nous quittons le Mali, nous dépensons des millions de francs CFA à l'étranger, comme des touristes. Ils prennent notre argent, on paye l'école, on crée de l'emploi chez eux, on paye un loyer et on paye des impôts. Puis on veut nous faire croire que c'est nous les gens qui font pitié et qui sont allés à l'étranger. Alors que nous sommes des touristes, on peut faire 5 ans de tourisme. Mais si on restait, et que nous qui dépensons 50 millions, 60 millions pour aller à l'école, ça nous coûterait quoi d'amener un vrai professeur de l'étranger ? Ou avoir un professeur local qui est malien, mais payé maintenant 50 millions par an, et il peut enseigner 200 personnes. 250 personnes. Et on reste près de nos réalités. Parce que quand on revient, ça nous prend 1 an, 2 ans, pour recomprendre le Mali. On est très qualifié techniquement, mais pour les choses les plus faciles, la gestion des ressources humaines, la psychologie, les choses les plus importantes pour réussir en tant que jeune entrepreneur, en tant que cadre ou manager, on a tout perdu. Bon, c'est pour ça que beaucoup de gens viennent et repartent.
Alors, quelle expérience est-ce que cela peut donner aux étudiants maliens qui sont là, au professeur Ibrahim Camara ?
Ben, moi, je pense que nous sommes dans un mythe, nous les jeunes Africains ici. Le mythe, c'est quoi ? C'est que nous prenons l'exemple sur nos parents. Quand on lit les CV des ministres, tel a fait la Sorbonne, tel a fait pour aller dans l'extrême, ils sont partis dans telles universités. Et nous, on se dit forcément que pour réussir, il faut aller dans les universités occidentales pour pouvoir apprendre. Mais moi personnellement, je suis allé étudier en France, mais j'ai des amis qui sont allés étudier à Chekanta Job. Mais je ne peux vraiment pas le sous-estimer du point de vue bagage intellectuel. Parce que là, ils peuvent se défendre et il y en a même qui vont aller jusqu'à débaucher des emplois directement de Dakar à Paris. Et nous, on a fait nos formations à Paris. On a de la peine à décrocher même un stage. Vous comprenez un tout petit peu le décalage, comme il a si bien dit M. Ndiang, le filet. Mais au-delà même du filet, il faut reconnaître quelque chose qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes, en tout cas, beaucoup reviennent parce qu'ils se sentent redevables de l'État.
Et la situation du Mali, en fait, je prends l'exemple du Mali, qui vit une situation périlleuse au sein de son système éducatif, ne peut laisser personne indifférent. Parce que vous ne pouvez pas voir que nous, qui avons connu de grands intellectuels aujourd'hui, que nous ne soyons pas capables de fournir des grands professeurs. Je suis désolé, je vais m'attaquer à un arrêté de M. le directeur sous réserve qu'au Mali, les titres de professeurs, les professeurs sont décernés par titre aujourd'hui. Et pourquoi cela est fait? Moi, je connais un tout petit peu la raison, mais parce que la formation, le suivi derrière les docteurs, ceux qui ont été docteurs dans les temps, dans les universités européennes, n'ont pas expliqué les mécanismes qu'ils étaient que des docteurs d'université et non des docteurs d'État. Et dans ce cas, ils n'étaient pas agrégables. Et nous, et ça nous a un peu mis les bâtons dans la roue parce qu'on n'a pas compris. On va découvrir un nouveau système. Et comme le dit, le retour aussi est périlleux. Quand vous revenez, vous êtes perdu, vous ne comprenez rien de ce qui se passe parce que vous partez, vous n'étiez pas dans la production, vous revenez étant productif, vous ne savez pas où aller et c'est dommage qu'on mette en place peut-être des structures d'accueil. Par exemple, les associations qui sont là peuvent aider beaucoup à voir clair, mais il y a vraiment du boulot dans ce domaine à réaliser de la part non seulement de l'État et aussi des associations qu'on doit beaucoup aider pour recevoir les cerveaux qui sont de l'extérieur.
Alors, professeur Ilo Diallo, vous êtes directeur national adjoint du centre des concours et des examens. Peut-être pas Ibrahim Camara, mais les deux autres jaunes là, vous avez l'impression qu'ils planent?
Non, pas du tout, parce que moi je crois que c'est un peu la mondialisation. Et les gens, tous les jeunes rêvent de l'Europe, les jeunes de leur génération, un peu de notre génération aussi. Avant qu'on aille, on était fascinés par l'Europe. Mais les gens ont comme prétexte d'étudier pour partir, beaucoup. Je crois que c'est un prétexte. Mais après, quand ils arrivent, ils se rendent compte que bon, la vie là-bas, c'est très dur. Et de plus en plus dur, comme l'a dit Nyang. Moi, j'étais là-bas aussi pour mes études. Mais à notre temps, c'était encore la fuite des cerveaux. Mais on est revenu quand même parce qu'on a estimé qu'il y avait des choses à faire ici. Eux, ils sont revenus. Bon, aussi, ils se rendent compte qu'il y a des choses à faire ici.
Est-ce que vous regrettez d'être venu?
Pas du tout. Je crois que j'ai beaucoup apporté avec mon arrivée ici et que je suis très fier de faire ce que j'ai fait et ce que je suis en train de faire. Donc, je n'ai pas du tout regretté. Et je suis très content de voir que mes élèves, parce que je crois que ceux-ci ont certainement été mes élèves au lycée, même si je ne les ai pas enseignés, c'est mes professionnels qui les ont eus en classe. Oui. Donc, ils ont conscience que c'est le retour chez nous qui peut sortir notre pays de l'ornière et qu'eux aussi ils peuvent se mettre en valeur étant ici, plutôt que de sous-monnayer leur talent à l'extérieur. Ça, je suis vraiment content de cela.
Okay. Alors, le dernier mot revient aujourd'hui à INRD pour clore ce débat. Quel est votre dernier mot, votre dernier plaidoyer à la faveur de la promotion aujourd'hui des filières scientifiques dans l'enseignement? Mohamed Kanté.
Déjà, moi je pense que l'inverse brain drain, c'est qui est fuite de cerveau, est brain gain, qui, au lieu de faire partir les élèves, sinon des enfants à l'extérieur. Moi, je crois que faire l'inverse, en d'autres mots, faire un transfert de connaissances, parce qu'on part pour la connaissance. Bon, il y en a bientôt, bien sûr, qui partent pour avoir de l'argent, mais ceux qui partent pour la connaissance, faire un inverse, right? Faire venir les cerveaux de l'autre côté et qui sont prêts à le faire de toute façon. Et moi, je pense que ça, c'est une meilleure approche pour combattre ce brain drain, right? Donc vraiment, moi j'encourage tous ceux qui
militent dans ce sens.
Tous ceux qui militent dans ce sens, qui partent à l'extérieur, qui veulent partir à l'extérieur ou quoi que ce soit. Bon, souvent à la même endroit en fait. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ok, si on ne doit pas partir, pourquoi toi tu ne reviens pas?
Mohamed doit beaucoup rester au Mali pour un peu apprendre encore à parler. Vraiment, voilà. Merci beaucoup. Ainsi, j'achève cette édition. Ce soir, il s'agissait pour l'équipe du Grand Dialogue et ses invités de décrypter le thème du jour, la science au service du développement. Les trois volets du débat, le manque dans le système éducatif pour un peu inciter tout le monde à aller vers les sciences à l'école, l'organisation du système après la formation l'immigration, que faut-il faire? La fuite des cerveaux était également évoquée dans ce débat. Nos invités, Mohamed Kanté, président de l'association INRD, association qui milite pour la promotion des filières scientifiques dans les écoles, Rebecca Brosseau, bénévole canadienne, également membre de cette association, le professeur Ibrahim Camara, universitaire, Ilo Diallo, directeur national adjoint du Centre des concours et examens du Mali, et Mohamed Ali Niang, jeune entrepreneur, aujourd'hui agronome. Je suis Famoussa Sidibé, Nouhoum Diré était à la technique, Ousmane Diadé Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Maoundi.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.